de l'écologie. François Bernard.
Bonjour. Lundi prochain, 10 novembre, débute dans la ville de Belém au Brésil la COP 30, réunion durant laquelle les États participants se pencheront sur l'état de santé de la planète. La première de ces initiatives remonte à 1992, où le sommet de la Terre, réuni à Rio, fait le constat alarmant de quelques problèmes qui vont devenir des sujets d'actualité des décennies suivantes. Réchauffement climatique, montée des océans, pollution et surtout difficulté de prendre collectivement en main les problèmes qui accablent la planète Terre. La semaine dernière, on a fait un bilan, 5 ans plus tard, de ce sommet de Rio auquel ont participé 178 pays, première réunion de la communauté internationale autour de ce qui deviendra bientôt le combat en faveur d'un développement durable. Nous sommes aujourd'hui en 2002, 10 ans après Rio donc, et le bilan, vous allez l'entendre, ne prête toujours pas à l'optimisme. Les ONG qui participent au sommet de Johannesburg cette année-là sont unanimes pour reconnaître que la situation reste très préoccupante et les progrès bien maigres, comme vous allez l'entendre au micro d'Arnaud Jouve à l'occasion de cette émission produite au début du mois de septembre 2002. On écoute notre archive et on en parle juste après.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Je vous propose en 2 émissions d'écouter ce que les ONG pensent du très prochain sommet de Johannesburg, où se jouera l'avenir de notre planète. Un regard aujourd'hui consacré au bilan depuis le précédent sommet de Rio. Le futur sommet de Johannesburg sera-t-il celui de Rio plus 10 ou celui de Rio moins 10 ? Entendez par là que ce grand rendez-vous planétaire autour des questions de l'environnement, qui se déroulera fin août et début septembre à Johannesburg, marquera-t-il une avancée ou un recul par rapport au sommet précédent qui s'est déroulé il y a 10 ans à Rio ? Les enjeux sont d'importance. Il ne s'agit ni plus ni moins que de notre planète et de notre avenir. Et pourtant, les perceptions varient sur ces questions et les réponses attendues des États de notre monde risquent de ne pas être à la hauteur des attentes. Surtout à la vue du bilan global que l'on peut faire depuis le sommet de Rio. C'est en tout cas ce que nous disent les ONG que nous avons rencontrées et qui nous font part ici de leurs espoirs et de leurs inquiétudes. Premier regard de Marina Faetanini en charge du dossier climat au WWF.
Ce dont nous nous rendons compte, aussi bien le WWF que les autres organisations qui travaillent dans l'environnement, c'est que la situation de la planète s'est dégradée. Le monde va très mal. Ce que le WWF voit 10 ans après, c'est un recul sur tous les plans. Un recul sur le plan de la qualité de l'air, un recul sur le plan de la qualité de l'eau. Je parle de qualité, mais aussi de quantité. Il faut savoir qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable. Nous sommes encore dans un monde où nous avons accepté le scandale de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui meurent suite à une malnutrition. Bon, pour le WWF, ce sont des scandales. Que dire des 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une énergie fondamentale ? Ce qu'on appelle accès une énergie de base. On estime que pour vivre, il faut à peu près 60 kilowatts par personne, mais vous avez 2 milliards de personnes, c'est-à-dire un tiers de l'humanité qui ne l'ont pas encore. Donc ça, pour le WWF, qu'on essaie de tirer les conséquences positives 10 ans après Rio, je crois que c'est malhonnête. C'est vraiment se moquer du monde. La Terre est en net recul sur tous les plans.
Ben Lefeté de l'ONG Les Amis de la Terre.
Pour Les Amis de la Terre, Rio avait été une conférence qui avait donné beaucoup d'espoir. puisque pour la première fois, la plupart des pays du Nord avaient pris leur part de responsabilité dans la situation de la planète. Et ils s'étaient engagés à soutenir les pays pauvres, les pays du Sud, à développer leur économie, leur pays, de manière plus écologique. Ils s'étaient engagés également, les pays du Nord, à revoir leur mode de développement pour qu'ils soient beaucoup moins polluants et beaucoup moins gaspilleurs de ressources. Alors, c'est vrai que la plupart des ONG avaient donc beaucoup d'espoir dans les suites de Rio, et que 10 ans plus tard, on estime que le bilan est globalement négatif. On se retrouve dans une situation où, alors qu'il était nécessaire de mettre beaucoup plus de règles au niveau international, notamment au niveau de l'environnement, au niveau social, c'est l'inverse qui s'est produit, puisque sous l'effet du libéralisme économique, on a fait sauter le maximum de règles pour encourager le commerce mondial, pour encourager l'investissement, et donc ceci au détriment de la situation de la pauvreté et de l'environnement en général. Et donc il est vraiment nécessaire qu'il y ait une pression très très forte des populations à travers les ONG, à travers les syndicats, pour qu'enfin les gouvernements se ressaisissent et prennent enfin des mesures très concrètes pour sauver tout ce qui peut être encore sauvé sur cette planète.
Bruno Rebelle, responsable de Greenpeace France.
Aujourd'hui, à quelques semaines de Johannesburg, on est plutôt à Rio moins 10 qu'à Rio plus 10. Les engagements pris à Rio ont été très partiellement mis en œuvre en matière d'environnement, pas du tout sur le volet social. En revanche, dans le domaine économique, là, oui, il y a eu des belles progressions. C'est-à-dire plus de libéralisation des échanges, plus de volume de produits et de services échangés, et une place toujours croissante aux acteurs économiques, que ce soit les grandes entreprises, les banques, les institutions financières internationales. Mais en matière d'environnement et de social, c'est plutôt la catastrophe.
Non seulement le bilan n'est pas bon, mais il nous est impossible de continuer dans cette voie. Explication de la porte-parole du WWF.
Prenons par exemple le cas de l'empreinte écologique. Alors qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique ? Le WWF travaille dessus depuis des années. C'est un peu l'estimation du nombre d'hectares qui sont nécessaires à une personne pour couvrir tous ses besoins. Tous ces besoins, respirer, manger, se chauffer, se rafraîchir, lire, écrire, etc. Tous les besoins d'un homme. On estime qu'aujourd'hui, pour un Français, il faut à peu près 6 hectares par personne. 6 hectares par personne, si tout le monde consomme comme un Français, il faut 2 planètes supplémentaires. Donc nous sommes vraiment en totale surcapacité. Si on prend le cas des Américains, là, c'est encore 3-4 planètes supplémentaires. Donc, où allons-nous ? Nous avons atteint nos limites biologiques. C'est pour ça qu'on dit que nous allons droit vers le mur. Alors, ce n'est pas que nous allons droit dans le mur, nous y sommes déjà. Alors, comment faire pour nous sortir de cette situation ? Il faut tout changer. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a une société, un monde, une planète à réinventer complètement de A à Z. Il ne s'agit pas simplement de petits changements ici ou là dont on serait très fiers individuellement. Je parle des États. Donc j'espère qu'à Johannesburg, on ne verra pas ça. Les États se gausser de leur succès personnel ou individuel, c'est pas du tout ça. Nous sommes sur du collectif, nous avons besoin d'engagement collectif. Donc changer totalement de planète, rien d'autre à faire. Donc réduire notre empreinte écologique, c'est-à-dire le poids de notre consommation sur la planète. On estime par exemple en Europe que nous sommes quasiment à 30-40% de gaspillage. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça signifie ? 30% ou 40% de gaspillage, ça veut dire que l'on pourrait consommer 40% en moins de ressources naturelles. Ensuite, prenons l'exemple de l'énergie. Tous les experts, y compris les experts onusiens, appellent un changement de cap énergétique. Alors, je vais peut-être le répéter pour que tout le monde comprenne. Il ne s'agit pas d'utiliser moins d'énergie seulement. Il s'agit de changer d'énergie. changer d'énergie. Donc, à la porte, les combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. À la porte, le nucléaire, pour les raisons que tout le monde connaît, parce que c'est aussi totalement insensé d'avoir bâti une société sur une énergie qui peut causer la disparition de toute la planète. Donc, que reste-t-il ? Eh bien, justement, ce que nous pouvons contempler tous les jours, c'est-à-dire le soleil, le vent, le mouvement de la mer et la chaleur de la Terre, géothermie. Donc tout ça existe, c'est disponible, il n'y a pas d'incapacité technologique. Je crois que là, c'est important de le souligner, nous ne sommes pas dans une situation où nous n'aurions pas la technologie propre, incomplète, non disponible. Non, non, ça existe, c'est prêt. Alors maintenant, à nous de nous en servir.
Regard croisé de Bruno Rebelle de Greenpeace et de Marina Faetanini du World Wide Fund.
À Rio, il y a eu trois conventions qui ont été proposées. La convention sur les changements climatiques, celle sur la biodiversité et puis celle sur la sécheresse et la désertification. Si on regarde ce qui s'est passé en matière de lutte contre les changements climatiques, il a fallu 10 ans pour finaliser un protocole, le protocole de Kyoto, qui, au moment où on va se réunir à Johannesburg, ne sera pas encore en vigueur, puisqu'il n'y aura pas un nombre suffisant de pays qui l'auront signé. Et puis surtout, le principal émetteur de gaz à effet de serre de la planète, les États-Unis, se sont retirés de ce protocole. Donc, ça, c'est assez caricatural du chemin parcouru, où dans le même temps, on a vu les émissions de gaz à effet de serre progresser, elles, de manière plutôt linéaire. Avec l'impact de plus en plus significatif de ces changements climatiques. La recrudescence d'inondations, les ouragans à répétition, les phénomènes de sécheresse toujours dramatiques, et ainsi de suite. Et on ne voit pas comment on peut aujourd'hui inverser cette tendance suffisamment rapidement pour que Johannesburg soit un point de changement significatif.
Je ne crois pas que les décideurs soient conscients de l'état dans lequel nous, hommes, femmes, avons mis la planète. Il y a, il faut le savoir, une ignorance crasse des conséquences de nos gestes sur l'environnement. C'est une ignorance qui est en train, petit à petit, très péniblement, parce qu'on se heurte à des mentalités totalement bloquées de changer. On se heurte à des lobbies totalement cyniques qui imaginent que le monde va pouvoir continuer tel qu'il va pour encore 100 ans, 200, 300 ans. Les gens qui vraiment, les scientifiques qui travaillent dans l'environnement savent très bien. Et j'ai presque envie de dire que certains hauts politiques sont parfaitement au courant de la situation. Donc c'est pour ça que je parle de cynisme, je parle de malhonnêteté et bon, je crois que pour moi, savoir et ne pas agir, c'est un crime contre l'humanité. Il va falloir peut-être un jour adresser vraiment, aborder la question de l'environnement dans sa version criminelle. Qu'avons-nous fait et vers quoi allons-nous ?
Greenpeace a décidé d'aller quand même à Johannesburg, même dans ce climat extrêmement décourageant, tout simplement parce qu'on ne peut pas déconnecter l'action de pression, l'action de lobbying sur l'ensemble de la négociation, du travail que nous faisons au quotidien, de manière très très pratique pour dénoncer telle industrie, telle activité de déforestation, ou pour mettre en avant telle proposition positive. Mais surtout, il apparaît aujourd'hui que, c'est assez paradoxal, c'est mal engagé, mais rien n'est joué complètement. À l'issue de la dernière conférence préparatoire de Bali, il n'y a pas eu d'accord sur un projet de texte. Il y a un texte avec encore 25% de crochets. Et il semble bien que ces crochets, c'est-à-dire ce qui reste encore à négocier, contiennent l'essentiel, le cœur même, la substance même du texte. Quand on voit par exemple que le principe de la responsabilité commune et différenciée reste encore entre crochets, tout simplement parce que les États-Unis n'en veulent pas. Quand on voit que les pays, le groupe des 77 tique encore sur un certain nombre d'exigences en matière de transparence démocratique, de gouvernance, ce qui est là aussi logique, il faut qu'on avance là-dessus, il faut que ces pays-là admettent de reconsidérer de manière significative leur relation à leur propre société civile. Quand on voit que l'Union européenne reste arc-boutée sur des régimes de subventions aux produits agricoles, dont on sait très bien qu'ils plombent complètement le développement potentiel des agricultures des pays du Sud, on voit bien que c'est bien le cœur de la négociation qui bloque. Mais en même temps, tout est possible puisque justement, il n'y a aucun texte arrêté aujourd'hui. Donc nous, on continue à faire pression. Ce que nous redoutons le plus, c'est un demi-échec ou un demi-succès. Il vaudrait mieux un bon échec bien cuisant, qui aurait la vertu de la bonne paire de gifles. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un quart de demi-victoire où on dirait c'est merveilleux, un petit peu comme on l'a vu d'une certaine façon à Monterrey, où tout le monde est reparti de là en disant oh, c'est bien quand même, il y a eu quelques engagements, mais quand on lit le texte dans le détail, il n'y a rien de concret, il n'y a aucun calendrier. C'est ce que nous attendons de manière très précise.
Les ONG du Sud et du Nord partagent-elles la même approche? Point de vue de Ben Lefété, des Amis de la Terre.
On a également l'impression que du côté des ONG, il y a peut-être une plus forte divergence aujourd'hui entre les ONG du Nord et les ONG du Sud, les pays du Sud, dans le sens où on entend parfois dans les négociations des ONG des pays du Sud qui interpellent les ONG du Nord en disant « mais que faites-vous dans vos pays pour qu'enfin vos gouvernements, vos entreprises respectent les accords internationaux, que vos modes de vie soient beaucoup moins gaspilleurs des ressources des pays du Sud, pour que vous ayez un commerce qui permettent vraiment aux pays du Sud de se développer. » Et c'est vrai que les ONG du Nord ont de plus en plus de mal à argumenter face aux ONG du Sud, qui, elles, sont dans des situations d'urgence. Pour elles, c'est des questions, effectivement, d'accès à l'eau, d'accès à l'alimentation, d'accès à la santé, qu'elles veulent faire mettre à l'agenda de Johannesburg, alors qu'une partie des ONG du Nord sont plus sur des thématiques purement occidentales. Parfois, effectivement, la protection des forêts tropicales perçue comme le poumon de la planète ou effectivement la gestion de la pollution urbaine dans les villes européennes, etc. Et donc là, on risque, si Johannesburg échoue, si les gouvernements du Nord n'ont pas une prise de position très forte sur l'engagement des pays du Nord à changer la donne internationale, on risque d'avoir un éclatement de plus en plus fort entre les ONG du Nord et les ONG du Sud de ce point de vue-là.
Pour conclure cette première partie consacrée au bilan depuis Rio, retrouvons Marina Faitanini.
Le sommet de Rio, c'est un peu le sommet de la conscience. C'est le moment où nous avons pu tous prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Maintenant, Johannesburg doit être à la hauteur de Rio et être le sommet de l'action. On ne peut pas avoir encore un sommet pour prendre conscience. On ne peut pas prendre conscience tous les 10 ans de la même chose et ne rien faire. Donc là, il est fondamental que Johannesburg atteigne un degré supérieur, c'est-à-dire action, engagement, daté, chiffré. On ne peut pas faire moins que cela. Ah!
fin de cette première partie réalisée par Guillaume de Rachinois et mixée par Thierry Le Saint sur une proposition d'Arnaud Jouve. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de ce dossier qui sera consacré aux attentes et aux inquiétudes des ONG sur le futur sommet de Johannesburg. Bonne semaine à tous.
Ces attentes concernant la santé de la planète et les préoccupations des écologistes, nous en parlerons encore la semaine prochaine. La COP30 qui se réunit à Belém sera toujours en cours jusqu'au 21 novembre précisément. Et nous verrons si ces attentes ont été prises en considération par la communauté internationale. Les ONG attendaient des engagements concrets et contraignants pour appliquer les promesses faites à Rio. Elles exigeaient une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une lutte plus efficace contre la pauvreté, la protection des ressources naturelles et une gouvernance mondiale capable de mettre en œuvre ce programme ambitieux. Elles ont été déçues. Le seul motif de satisfaction a été finalement un renforcement de la prise de conscience de la gravité de la situation, mais sûrement pas de l'action nécessaire pour y remédier. La semaine prochaine, nous reviendrons plus en détail sur les exigences des défenseurs de la planète en cette année 2002 et les éventuels progrès enregistrés les 20 années suivantes. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous retrouvez ainsi que toutes les précédentes sur notre site alternantefm.fr. De la musique avant de se quitter, notre archive de l'écologie sur les ONG et le sommet de Johannesburg date de 2002. Nelson Mandela n'est plus président de l'Afrique du Sud depuis 1999, mais sa voix compte encore.
There are many people who feel that it is useless and futile.
Et les hommages sont nombreux. On va écouter celui que lui consacre une grande vedette de la scène sud-africaine de l'époque, Brenda Fassie. On est en 1990. Cette chanson s'appelle Black President. Merci de votre compagnie. À la semaine prochaine.